Nous sommes plongés dans Le Nez de Dmitri Chostakovitch, œuvre dont le langage musical est un témoignage du goût contemporain de la création russe des années 30, opéra dont le livret est tiré de la nouvelle éponyme de Nicolas Gogol, paru 100 ans plus tôt. On passe à l'acte.
Bazar, passage à l'acte.
Nous voulons vous commander un opéra.
Un opéra en allemand.
On se souvient que le barbier Ivan Yakovlevitch a trouvé le nez d'un de ses clients dans son pain du matin, appendice dont il s'est rapidement défait à son tour, le propriétaire du nez, c'est bien un type qui a perdu son pif, l'assesseur de collège et major Kovalev court Saint-Pétersbourg à la recherche de ses éternuants à Serge qui se sont échappés, il finit par rencontrer son nez, avec un grand N, en costume militaire, dans la cathédrale de Kazan. Il tente de se le réapproprier, mais sans succès. À la suite de cela, il cherche à mettre une annonce dans un canard, mais l'employé du journal refuse de publier. Décidément, perdre son nez, ça n'est pas assez sérieux. Dans la nouvelle de Gogol, il y a une scène qui n'est pas mise en musique et que je me propose de vous lire. C'est celle du policier corrompu. Parce qu'il faut savoir que cette œuvre, c'est aussi un tableau de mœurs et satire de la bureaucratie de cette époque. Alors, donc il se fait emballer par le type du journal. Sur ces mots, Kovalev quitta fort irrité le bureau d'annonce et s'en fut tout droit chez le commissaire du quartier. Il va chez les flics. Il le trouva en train de s'étirer, de bâiller, en marmonnant « Ah ! Quelle bonne petite sieste je viens de faire !» Le major n'aurait su arriver plus mal à propos. Le commissaire aimait fort à encourager les arts et les métiers, mais il aimait encore davantage les billets de banque. Ben oui, il aime bien qu'on lui graisse la patte. « Qu'y a-t-il de meilleur ? » avait-il coutume de dire. « Un billet, cela ne prend pas de place, cela ne demande aucun entretien, on peut toujours le fourrer dans sa poche et si on le laisse tomber, il ne se fait aucun mal. » Quel esprit. Le commissaire reçut Kovalev plutôt froidement. On ne procède point à des enquêtes aussitôt après dîner. La nature a sagement ordonné une légère sieste après la réfection corporelle. Le commissaire montra ainsi au major que les maximes des anciens ne lui étaient pas inconnues. D'ailleurs, un homme comme il faut ne se laisse pas arracher le nez. Quand on va à la polkante après manger, ils sont en train de faire la sieste, c'est normal. Le commissaire ne mâchait pas ses mots. Et Kovalev, remarquons-le en passant, était fort susceptible. Il pardonnait à la rigueur les attaques dirigées contre sa personne, mais n'admettait aucun manque de respect envers son grade ou son état. C'est un type fier. À l'en croire, on pouvait permettre aux auteurs dramatiques de railler les officiers subalternes à condition de les empêcher de s'en prendre aux officiers supérieurs. L'accueil du commissaire déconcerta Kovalev, remarquez que c'est Kovalev dans l'opéra et Kovalev dans la nouvelle, à tel point qu'il proféra sur un ton très digne, les bras légèrement écartés du corps, « Après une réflexion aussi désobligeante, je n'ai plus rien à ajouter. » Il se retira donc et rentra chez lui en chancelant. La nuit tombait déjà. Après toutes ces démarches infructueuses, son logis lui parut d'une tristesse, d'une laideur infinie. Il trouva dans l'antichambre son domestique Ivan, qui, vautré sur un divan de cuir sordide, s'exerçait avec assez de bonheur à cracher au même endroit du plafond. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous mettre sur le dos et de cracher sur le plafond, c'est compliqué. Une pareille indifférence redoubla la fureur de Kovalev. Il donna au faquin un grand coup de chapeau sur le front en criant « Ah ! Le dégoûtant ! Toujours des sottises en tête !» Alors dans l'opéra, Ivan le domestique ne crache pas au plafond, il pousse la sérénade en s'accompagnant d'une balalaïka que voilà. Toc, 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 c'est Kovalev qui rentre. Passage à l'acte dans Bazar avec le nez, opéra de Chostakovitch. Tout à l'heure, je vous ai présenté une scène de la nouvelle de Gogol qui n'apparaît pas dans la version lyrique. À présent, c'est l'inverse. Chostakovitch et les deux autres librettistes ont créé de toutes pièces la scène de l'arrestation du nez, qui tient dans une phrase chez Gogol. Il écrit « On l'a arrêté au moment où il se disposait à prendre la diligence de Riga ». Et c'est tout. C'est une scène dans l'opéra d'une rare densité, donc on va essayer de se la faire courte. On est au début du troisième acte, en banlieue de Saint-Pétersbourg. Une diligence vide, le cocher qui roupille, le gendarme du quartier débarque, il place ses hommes, ils sont en train de monter un traquenard, une embuscade, ils sont sur les traces du nez. Alors, c'est pas des flèches, hein, les pandores, donc tout ça met un petit peu de temps. La scène se sature progressivement de personnages. Je vous rappelle qu'il y en a plus de 70 dans l'œuvre. Il y a une dame qui arrive, un homme, une famille, deux dandys, une vieille dame que les policiers dévisagent un à un, puisqu'ils sont à la recherche de leur coup le nez. Ces messieurs de la maison Poulaga se mettent à houspiller une marchande de craquelins. Les craquelins, c'est des petits... Vous voyez, des petits trucs qui craquent, hein, et irait même jusqu'au viol collectif si le nez n'arrivait pas à ce moment-là, tombant dans l'embuscade de la police. Et cette espèce d'agression sexuelle, elle préfigure une autre forme d'agression qui va avoir lieu dans un autre opéra quelques années plus tard de Shostakovich, chez Lady Macbeth de Mzensk, où alors là, ça va être dans une dimension toute autre. C'est anecdotique, cette agression dans cette scène par rapport à Lady Macbeth. Bon, ça, c'est un autre sujet. Donc le nez arrive, comme ça, au milieu d'une espèce de capharnaüm de foule. Immense bruitisme instrumental et vocal. La foule se met à tabasser le nez, à présent désarçonné de son cheval. Le type est tombé, il lui fout des pains. Et là, c'est très intéressant parce que cette situation, dans toutes les interprétations qu'on peut faire du nez, elle ressemble drôlement à un pogrom. Or, le nez, c'est l'objet de stigmatisation du peuple juif par excellence. Et dans l'opéra, plus on lui tape dessus, plus il reprend son calibre de nez normal. Il rétrécit, il disparaît finalement. Alors bon, les questions de religion chez Gogol, c'est très compliqué. C'était il y a une période de sa vie un peu particulière où il a développé un genre de syndrome de Jérusalem. Bon, il était orthodoxe, c'est une chose. Et moi, j'ai pas du tout assez de code pour parler de ça. Je suis pas du tout assez calé dans le domaine pour évoquer la chose. Dans tous les cas, il s'agit d'un moment fort. Voici le début de cette scène avec la mise en place du traquenard.
Я сейчас вам укажу! Ты, как птица, предокала.
Un extrait du début du troisième acte du Nez, opéra de Dmitri Chostakovitch. Le gendarme qui faisait « ha, ha, ha » comme ça, était interprété par Andrei Popov. Oh, il le faisait mieux que ça quand même. Les policiers par des hommes du chœur du théâtre Mariinsky. Ils étaient accompagnés de l'orchestre du même théâtre Mariinsky, placé sous la direction de Valérie Gergiev. Cette séquence opéra est à écouter tous les soirs à 18h dans Bazar. Bazar sur RTS Espace 2, c'est aussi sur l'application Play RTS. Bonsoir à vous.
Bazar. Thank you.
Détrompez-vous, l'organiste n'est pas resté coincé sur son pédalier, pas du tout. Iveta Apkalna était accompagnée de l'orchestre de la Bayerische Rundfunk de Munich sous la direction de Maris Janssons dans la deuxième partie du deuxième mouvement. Ça fait un peu le quatrième mouvement, mais en réalité c'est le deuxième mouvement de la troisième symphonie en do mineur de Camille Saint-Saëns, la symphonie dite avec orgue, composition de 1886, dédiée à son ami Franz Liszt, qui était décédé plus tôt cette année-là. Le Carillon, quatrième mouvement de la première suite pour orchestre de l'Arlésienne de Georges Bizet. Miu Woon Chung était à la direction de l'orchestre de l'Opéra Bastille de Paris. Si vous avez toujours ce Carillon en tête, le voici ailleurs. On se quitte avec Kambeleba du chanteur burkinabé Amadou Balaké. Bazar en best-of, c'est tous les samedis à 17h30 sur RTS Espace 2 et quand vous voulez sur Play RTS. On vous souhaite de passer une toute bonne soirée et un dimanche encore meilleur. Il est 19h30.
Vous aimez travailler en musique ? Alors écoutez notre playlist Musique classique pour se concentrer. Près de 3 heures de concerts enregistrés par la RTS dans les plus belles salles de Suisse romande et sélectionnés tout exprès pour vous par notre équipe de la production musicale. Essayez, c'est sur notre application Play RTS, bouton audio.
À l'Opéra, Sérène Regard.
Bonsoir, bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à l'Opéra pour le grand opéra français Hamlet, partition en 5 actes d'Ambroise Thomas. Un fratricide, une scène de folie, et puis une ambiance de cimetière avec un fantôme, et quelques questions également sur la finalité de l'existence. Eh bien, je crois qu'il y a ce soir matière à faire de l'opéra. Effectivement, on va toucher à la noirceur de l'âme humaine aujourd'hui, avec la musique d'Ambroise Thomas et le théâtre de Shakespeare. Au XIXe siècle, vous le savez sans doute, il y a une attirance pour ce théâtre du grand anglais. C'est d'ailleurs assez curieux parce que le drame de cet auteur n'est pas a priori le mieux assorti à l'univers lyrique. Effectivement, Shakespeare, c'est un homme qui nous propose des interrogations, de l'ambiguïté, et on est tout de même assez loin du sentiment généralement évident qu'on aime bien exploiter à l'opéra. Alors voilà sans doute ce qui explique le parcours d'Hamlet, l'œuvre d'Ambroise Thomas, d'abord une partition triomphale dès 1868, l'année bien évidemment de la création, et tout cela jusqu'aux 2 premières décennies du XXe siècle, avant que l'œuvre ne disparaisse peu à peu des théâtres, que ce soit en France, en Angleterre ou en Italie. Eh bien oui, Hamlet, c'est une partition oubliée jusqu'aux portes de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été jouée en tout 384 fois, dont la dernière avant-guerre au Palais Garnier, c'était en 1938. Il faudra attendre la fin des années 70 pour voir finalement l'Amérique ressortir l'ouvrage. Et bien sûr, cela se fera en langue anglaise. Alors quelques mots à présent à propos de l'histoire avec un premier acte qui se déroule à la cour d'Elsener. Nous sommes donc au Danemark et c'est là qu'est célébré le mariage du roi Claudius avec la veuve de son frère, la reine Gertrude. Claudius vient tout simplement d'hériter du trône de son frère et Hamlet, le fils du défunt roi, qui est un esprit troublé par ce remariage et aussi par l'amour qu'il éprouve pour Ophélie, eh bien, n'est pas d'accord avec ses nouvelles noces. Alors Hamlet va assister à l'apparition du spectre de son père, spectre qui lui apprend que Claudius, le nouveau roi, l'a empoisonné et spectre qui lui rappelle également son devoir de vengeance. Et puis au deuxième acte, nous découvrons le personnage d'Ophélie. Elle est triste devant la froideur d'Hamlet, elle confie d'ailleurs ses craintes à Gertrude, qui prend peur. La reine soupçonne son fils d'avoir découvert l'identité de l'assassin de son père, et ce sont des craintes qui vont se vérifier, puisqu'au cours du festin de noces, Hamlet invite une troupe de comédiens. Il le fait de façon assez habile en enjoignant ces derniers de mettre en scène un assassinat de roi. Évidemment, Claudius, le nouveau souverain, comprend immédiatement la portée de l'accusation. Il quitte l'assemblée alors qu'Hamlet semble atteint de démence. Et bien voilà en quelques mots l'histoire de la première partie de cet opéra d'Ambroise Thomas, Hamlet, avec ce soir dans le rôle-titre le baryton Charles Rice. Et puis à ses côtés, il y a Valentina Kudund dans le rôle d'Ophélie, Irena Petkova qui incarne la reine Gertrude et Lucar Hortar dans le rôle du roi Claudius, sans oublier Sébastien Selofiga, qui est le spectre du roi. Je vous donne là l'essentiel de notre plateau lyrique d'aujourd'hui. Il est soutenu par l'orchestre du Théâtre National Slovène de Maribor, avec à sa direction Mojka Lavrinčić. Nous écoutons aujourd'hui une production captée le 17 mai dernier à Maribor, dans la région du nord-est de la Slovénie. Alors je vous invite à présent à prendre place confortablement, à vous détendre et à entrer dans cette œuvre française de longue haleine, mais ô combien superbe, Hamlet d'Ambroise Thomas.
Thank you. La terre est basse. faire gré, tendresse éphémère. Mon père tombe sous les coups du destin, aveuglé. Se sent à peine écouler, et ma mère est au bras d'un nouvel époux. Voilà ses larmes éternelles, quelques jours ont tout emporté. Inconstance et fragilité.
Par l'amour essuie et c'est assez d'une parole pour me retenir à tes pieds.
le spectre de fervoir.
Brésil, la visionne, je
fais votre prière. Je vous dis, je veux moi, le spectre, le sommet.
Que n'avons-t-il, bien le protège, c'est un nom d'avenir ce soir, de plaines à mettre pour Paris.
Oh, me!